C'est l'été, historiquement parlant, se met à l'heure d'été, rien que pour vous. Plutôt que de vous proposer un simple best-of de votre émission favorite, on vous invite à chausser vos baskets avec nous aujourd'hui pour faire le tour des randonnées pédestres chargées d'histoire dans la Loire et le Rhône. Tout l'été, et ce, un samedi sur deux pendant une demi-heure, historiquement parlant, s'exporte afin d'admirer les joyaux du patrimoine à travers les circuits pédestres que peut nous et vous proposer la région d'Entre-Loire et Rhône. Mais aujourd'hui, une randonneuse nous accompagne. Elle pourrait être une spécialiste de la clairette de Die, du fait de son surnom, c'est vrai?
Ah oui,
hein, clairette, voilà.
Oui.
Mais finalement, au lieu de cela, elle a choisi les vins de la côte rhônaise. Donc elle n'oublie pas d'où elle vient, en fait,
hein,
finalement. C'est ça, de son terroir, et elle ne s'en cache pas, dans historiquement parlant. La routarde qui apprécie les breuvages de qualité, mais aussi les émissions de qualité. L'authentique Claire Vantine, mesdames et messieurs, voilà. Oh là là là, quelle présentation.
Oh là 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 là, quelle entrée en matière. Merci Victoria.
Voilà, bon, en tout cas.
Et bonne fête.
Et bonne fête Claire, et oui,
oh,
tout à fait.
C'est
parce qu'à l'heure de l'enregistrement, de toute façon, à l'heure de l'enregistrement, on enregistre le mardi, voilà, mardi.
11 août,
c'est ça, et pour le 15 août, on est fait, c'est votre fête aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est ma fête, et eh bien merci, c'est très très gentil. Et je remercie aussi.
Julien
voilà. Qui ce matin, quand j'ai ouvert la porte, m'a dit bonne fête Claire. J'ai beaucoup apprécié que des jeunes hommes me souhaitent ma fête. Merci les garçons.
Merci Julien, parce que moi c'est vrai que j'ai vite la fêté.
Alors
une invitée qui a le goût du jeu, du défi, et elle nous le prouve chaque quinzaine de votre été. Elle va nous le prouver une fois de plus avec ce nouveau défi. Comme chaque fois. Une histoire, voilà. Et là, vous allez voir, on va remonter 2000 ans en arrière. Voilà,
ah,
2000 ans en arrière.
Aujourd'hui, c'est ma fête, voilà, Victorien.
Ah oui, c'est votre fête, là, Claire, carrément. Ça, c'est vrai. C'est pas encore la fête de Julien. Je sais pas quand c'est la tienne. C'est passé, d'accord, bon.
C'était il y a 9 jours.
Ah, mais d'accord, il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, là aussi, je n'avais pas souhaité. Mais... Ah. Oh là là.
Et la Saint-Victorien.
Hein, c'est le 23 mars.
Le 23 mars.
Ouais. Saint-Victorien. Oh,
notons pour l'année prochaine.
Ils vont se venger. Ils vont pas vouloir dire. Nous sommes le 15 août. Et le 15 août dans l'histoire, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, en tout cas, vous allez me poser des questions pour savoir quel personnage, quelle invention, quel fait historique s'est déroulé le 15 août. Je ne vous répondrai que par oui ou par non. Et puis, quelques indices viendront étayer votre réflexion. Alors, je ne vous laisse pas évidemment comme ça sans aucun indice. On va commencer tout de suite. Ça s'est passé le 15 août de l'an 30 avant Jésus-Christ.
Oh là là !
Alors, c'en est fini. Mais vous aimez bien Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Je le revendique. Haut et fort, j'en ai pas honte.
C'en est fini, en tout cas, de l'histoire pharaonique. L'Égypte ne jouera plus qu'un rôle secondaire et désormais, bien, la civilisation égyptienne va disparaître avec sa leader. Et c'est le 15 août, voilà, cette civilisation va disparaître avec sa leader. Alors, quel est ce fait historique? Quelle est cette femme qui a connu l'apogée, finalement, de l'Égypte ancienne, l'an 30 avant Jésus-Christ, qui va changer, d'ailleurs, à tout jamais la face de l'Égypte. Et le 15 août 30 avant Jésus-Christ, eh bien, c'est vraiment le trou, la fin, en tout cas, de cette Égypte ancienne, Égypte pharaonique.
Eh ben ça peut être son nom.
Julien Vacheron, il est peut-être sur la piste.
J'hésite.
Oui, mais je sais, je la vois. Mais, Cléopâtre.
Cléopâtre, oui, exactement.
Avec ça concerne Cléopâtre.
Pas la morsure de
c'est
serpent.
C'est peut-être son décès. Alors,
c'est ça, son c'est décès. Morsure de serpent, en effet.
C'est vrai.
Le 15 août 30 avant Jésus-Christ.
Ouais, mais qu'est-ce
fait.
Que je suis bonne.
Ah là là, heureusement qu'il y avait Julien à côté.
Non, même pas vrai. Mais je savais que c'était Cléopâtre, mais le nom ne revenait pas. Vous savez,
ayez pitié de mon grand
âge, Victorien.
C'est vrai. Vous verrez. Il y a des mots qui manquent comme ça, mais je savais que c'était Cléopâtre. Mais par contre,
vous avez connu cette période en plus, Claire.
Oui, mais par contre, évidemment. Dans une vie antérieure. Mais par contre, on ne savait pas que c'était un 15 août.
C'est une date comme ça qui a été faite.
Autour du 15 août, on va dire. Hein.
C'est vrai que c'est quand même difficile de préciser une date à cette période-là, mais il paraît que c'était le 15 août de l'an 30, j'ai écrit. Donc, avec cette morsure de serpent, Marc-Antoine était déjà mort, de toute façon, avant, et Cléopâtre se donne la mort elle-même. Voilà, donc c'est assez
avez-vous remarqué, Victorien, que depuis que vous me posez vos cols, vous ne m'avez encore jamais coincé?
Ouais, c'est vrai, c'est
hein
exactement. Exactement. Mais je crois que mes indices au départ, ils sont trop précis, en fait. Limite, il faudrait que je dise 15 août 30 avant Jésus-Christ.
Qu'est-ce que c'est clair ? Non, là, j'aurais pas trouvé. Franchement, j'aurais pas trouvé.
Là, ça aurait été plus compliqué. Allez, dans un instant, la randonnée avec Claire Vankin pour Saint-Marcel de Féline. Allez. Nous allons rentrer dans les bocages, dans les bosquets, dans les magnifiques.
Et le beau château, bien sûr.
Voilà, château, en effet, Saint-Marcel de Féline. Mais aussi fait. Un oratoire, verrait, de la Vierge Marie, tout ça. Une imitation de la grotte de Lourdes. C'est magnifique, c'est assez insolite. Allez, tout de suite, une petite pause musicale, bien légère pour débuter avec Boulevard Désert. Emmenez-moi, c'est dans un instant et c'est tout de suite sur RVR.
Comme un grain de sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Je suis comme une poussière, si je m'envole un matin, je retourne à la terre, je m'en vais et je viens. Comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme empli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
Direction plein sud pour cette randonnée que nous vous proposons aujourd'hui. On va prendre le départ de Saint-Marcel de Féline pour un circuit pédestre de 8 km.
C'est moins romantique.
Pour 2 heures de marche. Non, oui, c'est vrai. Mais bon, ce sont les auditeurs de Saint-Marcel de Féline. Ils nous écoutent en tout cas et on est très contents de partager cette randonnée. C'est vrai que c'est pas les cigales, c'est pas le sud, c'est pas le midi, bien entendu. Mais bon, c'est RVR. Hein, on est une radio locale qui couvre notre région. Voilà, région d'Entre-Loire et Rhône. Alors, en tous les cas, si vous. Prenez votre temps hein, à contempler tous les points de vue. Donc, ça fait un peu plus de 2 heures. Mais 2 heures, c'est un horaire assez anecdotique. Et notamment, vous pouvez contempler les différents relais de l'histoire disséminés à peu près partout dans cette belle randonnée qui mêle un petit peu toutes les périodes de l'histoire,
oui,
Claire Vankin.
Voilà, ouais.
Même dans un seul monument, on peut avoir plusieurs...
Comme c'est le cas, par exemple, de ce très joli château, bien sûr, de Saint-Marcel de Féline. Bien entendu.
Voilà. Et donc, ce château Saint-Marcel de Féline, c'est un château qui donne le ton à cette randonnée. Hein, vous pouvez dès le départ, hein, le voir et aller même.
Et l'admirer.
L'admirer. Alors, c'est pas figé, elle n'est pas figée dans le temps du tout. Hein. Enfin, ce château, il a traversé les époques,
oui.
Il date du XIe siècle.
Voilà.
Mais il fut constamment rénové selon les modes du temps.
Voilà, il a été transformé moult fois, notamment à la fin du XVIe siècle.
Hein. Ouais.
Alors, il faut savoir qu'il est classé monument historique. Hein. C'est un très, très bel édifice, carré. Et qui est entouré de profonds fossés et d'un jardin. Il faut savoir que c'est ouvert à la visite aussi. Hein, voilà, avec une cour intérieure et des galeries couvertes qui sont absolument magnifiques.
Mais il appartient pas à une organisation publique. Hein,
Il est privé. Alors, il faut savoir que ce château appartenait à une célèbre lignée, forésienne qui était les Talaru.
Voilà, exactement. Donc là, c'est une saga.
C'est une vraie saga forésienne, j'appelle ça la saga des Talaru.
Faire une série directement dessus.
Parce qu'il faut savoir que cette famille des Talaru possédait des châteaux splendides, mais un petit peu partout en France. Mmh. Alors, il commence par le château de Chalmazel. Célèbre château de Chalmazel qui existe toujours, bien entendu. Et puis ensuite, on retrouve donc Saint-Marcel de Féline. Un peu plus loin, le château du Chaussin. Et puis aux confins des communes de Saint-Germain-l'Espinasse et de Saint-Romain-la-Motte, eh bien, il y a ce magnifique château avec cette superbe façade, le château de Chamarande. Hein. Tout ça appartenait au marquis de Talaru.
Voilà. Alors,
on se demande comment d'ailleurs cette lignée a pu posséder tous ces biens. Eh bien, c'est tout simplement grâce à de richissimes unions. Hein, que cette famille forésienne...
Voilà, il y a des mariages arrangés, peut-être.
Ils ont régné en maître pendant 700 ans, soit plus d'une vingtaine de générations. Et pour s'éteindre, faute de descendance, avec le dernier de la lignée des Talaru, c'était au milieu du 19e, il s'appelait Louis-Justin-Marie de Talaru.
Et donc, le rapport avec ce château de Saint-Marcel-de-Féline,
c'était lui le propriétaire.
Propriétaire.
Ah oui, il a été le propriétaire du château de Saint-Marcel-de-Féline, hein. Tout à fait.
Et donc, il est ouvert aussi à la visite, ce château je ne pense pas, parce que c'est quand même à but privé. Hein, donc,
on peut peut-être l'admirer visiter, comme ça. On peut visiter. Ouais. J'ai vu que c'était ouvert. Il y a des horaires de visite.
Sur rendez-vous, peut-être.
Voilà. On peut visiter. Et il y a vraiment de très belles pièces meublées à l'intérieur. Des peintures magnifiques qui recouvrent les portes, les poutres, les embrasures et même les volets, les cheminées, hein, voilà.
Et on a vraiment un style Renaissance aussi qui est mis aussi sur le château. Hein.
Donc voilà, quand il était remanié là donc au XVIe siècle qu'on trouve un style un petit peu Renaissance,
Renaissance italienne. On peut le voir au niveau des fenêtres aussi.
Voilà,
surtout,
c'est ça qui lui donne d'ailleurs cette très belle allure actuelle, hein, voilà.
Exactement. Oh, moi, j'adore la Renaissance italienne.
C'est absolument magnifique. Bah, disons qu'on passait de cette période grosse pierre mastoc et lourde, très belle aussi, à quelque chose de plus élégant, dire. Hein, on épurait les lignes, voilà, hein, c'est sûr.
Et puis, si on reprend le contexte aussi politique de l'époque, c'est que là, l'Italie, c'était vraiment la mode. Ce moment-là, le Quattrocento, les humanistes qui étaient vraiment présents en Italie, avec notamment la République des Lettres, évidemment, ça, c'était toute une organisation d'un intellectuel en Italie qui était présent.
Et puis, bien sûr, François Ier chez nous qui a boosté, on pourrait dire avec un terme actuel, qui a boosté cette révolution artistique.
Voilà, tout à fait. Hein, et puis les guerres d'Italie.
À
côté. Alors, au fil de la randonnée, on peut aussi remarquer les vestiges d'un vieux pont sur lequel passait la première ligne de chemin de fer. Ça, c'est au fil de la randonnée. Donc, bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais en tous les cas, c'est quand même un point remarquable. Voilà,
Bien sûr, première ligne de chemin de fer, bien sûr.
Donc, c'est un vieux pont, des vestiges. Alors, à Saint-Marcel, également, un petit air de Lourdes, j'ai envie de dire, est aussi présent, puisque, en effet, au début aussi de la randonnée, sur la route de Néronde, donc à Saint-Marcel, eh bien, on va trouver la quasi-sœur jumelle de la grotte sacrée de Lourdes. Mmh. Il s'agit de l'oratoire dédié à la Vierge. Oh là là,
le lapsus révélateur.
Ah, c'est bon. Voilà. Non, mais ça arrive à tout le monde. Hein. Oh, ah, franchement, ça arrive. Tous les professionnels de la radio, de la télé, ils sont passés. Ouais. Ça, j'ai écouté dans les bêtisiers, c'est comme ça.
C'est à la mode en moi.
Ouais, bah, alors, c'est un beau. Notez dans le bêtisier. Oh. Au pot de mer, excusez-le, il a pas fait exprès.
C'est le motif qui rentre.
C'est dans la boîte. Alors, bon. Donc, oratoire dédié à la Vierge. À la Vierge Marie, c'est ça.
Oui.
Hein. Donc, voilà.
Alors... mettre les points sur les i.
Alors bon, bah, tout le monde sait ça. Lourdes, donc apparition de la Vierge Marie à Bernadette, c'était le 11 février 1858. Mmh. Voilà, elle apparaîtra plusieurs fois, délivrera son message. Et c'est vrai qu'en France et partout dans le monde, il faut savoir qu'il y a des reproductions de la grotte de Lourdes, ouais. Donc, notamment à Saint-Marcel-de-Féline. On en trouve aussi une, par exemple, sur Saint-Anne-Lieu, qui malheureusement, comme je l'ai dit dans une précédente émission, a été vandalisée et détruite. Et un petit peu partout, on retrouve cette reproduction. Mais il faut savoir que ça a toujours été un fait marquant qui a décidé de...
Voilà. Voilà, parce que c'est une famille hein, au départ qui était allée donc à la grotte de Lourdes, mmh, et qui a ensuite eh bien, décidé de construire,
à rendre hommage. Et souvent, après, c'était un petit lieu de culte où les gens venaient prier. Donc, c'est tout à fait respectable.
Alors, on va continuer notre randonnée hein, tout en remarquant un joli moulin rénové par un propriétaire également. Vous pouvez le voir au cours de cette randonnée. Et puis, je souhaiterais faire une petite parenthèse par une commune qui se trouve à proximité de Saint-Marcel-de-Féline. Alors, sur cette randonnée, on ne passe pas, en tous les cas, à Saint-Symphorien-de-Laye, puisque c'est la commune dont il s'agit. Pourquoi ? Parce qu'elle possède un magnifique relais de poste, le relais de la Tête Noire, hein, qui date du 15e siècle et qui constitue conseiller de fresques. Hein.
Ah ben alors,
qui date elle aussi, encore une fois, voilà, on est à peu voilà. près pareil que le château de Saint-Marcel de Féline, ça passe dans le temps, 16e, 17e, 15e siècle, la date vraiment de construction. Et en tous les cas, c'est un relais stratégique, vraiment. Ce relais de la Tête Noire, voilà oui. pourquoi aussi. Hein. C'est,
voilà,
c'est important, il est symbolique ce relais.
C'était un relais tout à fait symbolique, c'est donc le relais de la Tête Noire. Vous savez, Victorien, que nous devons à Louis XI d'avoir créé les premiers relais postaux. Mmh. Hein, voilà. Et à Saint-Symphorien, donc, on trouve un des plus anciens relais postaux de France. On nous dit même le plus ancien. Mmh. Je ne m'avance pas. En tout cas, un des plus anciens. Il date de 1464 et il a effectivement de magnifiques fresques, donc 16e, 17e siècle.
Voilà.
Alors, bien sûr que ce relais de poste
est stratégique.
Et voilà, était d'une très grande importance, puisqu'il fut longtemps le dernier. Hein, avant d'affronter la redoutable montagne de Tarare, voilà. dont les embûches étaient craintes de tous les voyageurs. Et il faut s'imaginer que ce chemin de Tarare, on s'imagine difficilement, c'était un chemin de terre, avec des trous, des bosses, des ornières et des ravins.
Oui, parce que maintenant, c'est aménagé.
Oui, mais c'était redoutable. Il y a beaucoup, beaucoup de diligence et qui ont basculé dans les ravins. Hein. Alors, la Tête Noire, c'était un logis noble. Et il y a eu de grands personnages qui ont laissé des traces de leur passage dans l'histoire.
Donc là, on pouvait s'y arrêter, on pouvait s'y restaurer aussi.
Ah ben, bien entendu. Alors, on trouve, par exemple, la venue de Rabelais, de François Ier, d'Henri IV, de Mazarin, de Molière, de Napoléon, bien sûr, et tant d'autres. Alors, il faut savoir que pendant qu'ils se restauraient, toutes ces personnalités se restauraient, il y avait ce qu'on appelait les écuyers chevaucheurs qui entretenaient les montures. Prête à être enfourchée dans l'heure. Donc, le logis noble était réservé aux hautes personnalités, gens de noblesse, hauts clergés, bien entendu, ainsi que pour le roi lui-même, puisqu'on sait qu'il y a des rois qui sont passés et qui s'y sont restaurés. Alors, il a fonctionné jusqu'au 19e environ, voilà. Et pourquoi ce nom, relais de la Tête Noire ? Alors, ça, je pense que c'est la légende. Historiquement, on n'a pas vraiment de preuves. Ce nom proviendrait du sobriquet d'un capitaine brigand mauresque qui s'appelait Geoffroy de Teste Noire.
D'accord.
Ça, c'est peut-être la légende, on ne sait pas trop. En tout cas, voilà l'histoire.
Voilà, hein, exactement. Donc, vous pouvez aussi faire un détour, pourquoi pas, ça va en aller, mais
oui,
dans ce cas-là,
ça
fait un détour hein, quand même. Hein.
Ça fait un petit détour, mais quand on prend son temps, quelques kilomètres de plus ou moins, ça compte pas bien.
Voilà, c'est ça. Et allez-y, allez, voilà. Alors, allez vous restaurer, hein, pourquoi pas aussi à Saint-Vendelais. Il y a voilà, il y, y a pas mal de choses, mm-hmm. notamment Marcelin.
Marcelin avec les superbes
les macarons. Voilà, magnifique macaron.
Trop bon. Trop bon.
C'est super bon.
Ah, c'est super bon. Bah oui, oui, on peut.
Donc finalement, vous n'allez pas vous arrêter au relais de la tête noire, vous allez vous arrêter à Marcelin en fait.
Voilà, Marcelin, voilà.
Vous allez tout reprendre. Vous avez fait un détour pour essayer un peu de perdre quelques kilos. Puis ensuite, vous allez tout reprendre avec les macarons. Voilà, c'est magnifique.
Bah vous, Victorien, vous ferez bien à manger des macarons.
Bon, en tous les cas, la boucle est faite, hein, puisque c'est une boucle évidemment, parce qu'on revient ensuite au village de Saint-Marcel de Féline pour revenir avec notre point de départ, avec des souvenirs plein la tête, j'ai envie de dire, des images plein la tête de cette randonnée. On ressort comment un peu de ce parcours, Claire?
Toujours enrichi, forcément. Dès que l'on emprunte des chemins qui nous emmènent sur des lieux comme ça, d'architecture et d'histoire, on apprend toujours beaucoup de choses et on se rend compte que notre histoire, finalement, elle s'est bâtie tout au long des siècles et que nous en sommes les héritiers.
Il y a une continuité.
Et on doit le respect justement à ces anciens qui ont su garder, protéger, préserver tous ces joyaux, toute cette architecture. Et moi, je sais que, bien entendu, moi, je randonne toujours évidemment beaucoup et j'aime randonner dans des endroits comme ça chargés d'histoire.
Ouais. Voilà. D'accord. C'est et vous êtes, il faut vous arrêter.
Bien entendu.
Voilà.
Et je prends le temps de lire. D'ailleurs, quand je randonne avec une de mes amies, avec Flo, elle me dit « Oh, t'as vu, il y a quelque chose d'écrit là-bas » Et moi, je cours lire ce
qu'il y a d'écrit. Elle a vraiment cette voix ?
Oui.
D'accord.
Ah, t'as vu, il y a quelque chose d'écrit, Claire ? Alors, j'y vais plus. Je lis. Et après, je lui explique.
Bon, d'accord. Allez, on va marquer une petite pause musicale. Julien, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, non ?
Non, non.
Ça va ? Rien de spécial. En fait, tu voulais rajouter une musique, en fait, c'est ça ?
C'est ça.
C'est ça, la prochaine musique, c'est... Alors, quelle est cette musique, Julien ? La prochaine petite escale musicale avant de nous retrouver, hein, pour non pas un parcours pédestre, mais le pèlerinage...
Voilà, de Notre-Dame de Vernet.
Voilà, c'est en tout cas le pèlerinage, vraiment le rendez-vous de tous les Rouennais.
Oui, absolument,
le 8 septembre, exactement. Donc, RVR va faire sa rentrée dans un instant. Même si les vacances continuent pour vous et tout de suite avec Julien.
Et à la rentrée, il y a la Coupe du Monde de rugby, comme tout le monde le sait, et tous les rugbyman et même tout le monde a dansé dessus. Il s'agit de Omi et de son tube Cheerleader.
She is always right there.
Alors nous préparons en tout cas déjà notre rentrée sur
RVR. Allez, soyons sérieux.
Ouais, exactement. Voilà, nous préparons notre rentrée sur RVR, vous savez.
Bien sûr.
Mais aussi la vôtre à vous, chers auditrices et auditeurs. Alors on n'a pas non plus envie de parler que de rentrée parce que c'est encore les vacances. Mais en tous les cas, tous les animateurs d'histoire, rendez-vous le 8 septembre.
Oui.
Fête de la nativité de Marie et fête patronale de la commune de Vernet pour le fameux pèlerinage autour de la Vierge Noire. Alors le pélé de Notre-Dame de Vernet, c'est ça. Hein.
Voilà, c'est le pèlerinage de Notre-Dame de Vernet.
On dit pélé.
On dit pélé maintenant. On dit le pélé de Lourdes, le pélé de Salette, le pélé. Voilà, mais bon.
Alors tout aussi ancestral, en tout cas que novateur, ce booster de vie, parce que il s'agit de ça, ce pèlerinage de Notre-Dame de Vernet, eh bien nous éclaire sur le chemin que nous devons emprunter, un chemin d'abord historique, puisque le berceau de ce pèlerinage, c'est l'église Notre-Dame de Vernet, qui d'ailleurs appartenait à un ordre que l'on connaît bien désormais dans historiquement parlant. Il s'agit de l'ordre de Cluny.
Alors, Vernet s'est situé sur la rive droite de la Loire, à la sortie du défilé des célèbres gorges, dont il ne subsiste que le souvenir, depuis bien sûr la construction du barrage de Villeray. Alors, ce village de Vernet et sa forteresse ont durant le Moyen-Âge joué un rôle important en raison de leur situation à l'extrémité du forêt, sur les confins du Beaujolais. Alors, de ce château féodal, il ne subsiste quasiment rien, que des restes insignifiants. Il faut vraiment rentrer dans l'église paroissiale pour découvrir justement donc cette fameuse Vierge Noire qui est présente dans ce village depuis bientôt près de 600 ans. Et donc, cette Vierge Noire qui a donné naissance à un culte tout particulier dans le Rouennais et bien sûr toujours actuellement de nos jours. C'est toujours un lieu de pèlerinage où les fidèles se rencontrent pour le 8 septembre.
Alors justement, un lieu de pèlerinage avec notamment de nombreux ex-voto, ça c'est important à dire. Alors qu'est-ce que c'est que les ex-voto pour aussi
Les ex-voto, c'était des reconnaissances, des remerciements sous forme de petits cadres, de petites plaques de granit ou de marbre, chacun selon ses moyens financiers. Vous savez, il y avait de très jolis ex-voto qui étaient tout simplement faits en tapisserie, que des dames faisaient en tapisserie. Malheureusement, à la réfection de l'église, eh bien, on a décidé d'enlever ces ex-voto. Alors, ils sont conservés. On les voit une fois par an, le jour de la journée du patrimoine. C'est vraiment très dommage parce qu'il y en a des magnifiques et de très anciens. Parce qu'il faut savoir que les mariniers qui étaient sur le Rambert et qui faisaient le trafic sur la Loire avaient une dévotion à Notre-Dame de Vernet sans limite. Parce qu'il faut savoir que Notre-Dame de Vernet donc, est située en aval de ce fameux et redoutable et redouté saut du Perron, et qui malheureusement a causé la mort de beaucoup de mariniers et aussi le fracas de leur ramberte et tout ça. Donc quand ils avaient passé cette difficulté, eh bien, ils se tournaient en direction de l'église de Vernet pour remercier Notre-Dame de Vernet. Donc, Notre-Dame de Vernet, bien connue, parce que, évidemment, c'est un culte à cette Vierge, donc Vierge Noire.
Vierge Noire. Oui, donc, justement, quelle est la particularité ?
Alors, ces Vierges Noires, c'est une énigme un petit peu. Elles sont très populaires, de peu près, on va dire, le XIIe siècle environ. Et on les trouve dans le monde entier, particulièrement en France et notamment en Auvergne. Et bien sûr, en Auvergne, avec la célèbre Vierge Noire de Notre-Dame du Puy. Mais c'est une énigme un petit peu, ces Vierges Noires. Alors bon, il y a ceux qui veulent y voir une résurgence des cultes païens, en l'honneur des divinités féminines, Isis, etc. Bon, après, on peut se demander.
Ah oui, on peut même carrément parler de paganisme, même carrément.
Oui, tout à fait. On peut se demander si elle n'évoque pas des visages qui avaient été noircis par la fumée des cierges. On pense plutôt qu'elles sont à l'image, puisque c'est à l'époque des croisades à peu près, on suppose. Que les croisés ont ramené des statuettes avec la physionomie des femmes de là-bas qui étaient très, très basanées, quoi. On suppose. Ce sont des suppositions. Ça reste quand même toujours un mystère et pas Par contre, ce qui est un petit peu spécifique à ces Vierges Noires, c'est qu'elles donnent toujours, toujours lieu à des pèlerinages. Mmh. Et dans la Loire, vous avez, par exemple, Valfleury également, ouais, qui est un pèlerinage aussi, vous voyez. Donc, toujours un culte particulier autour de ces Vierges Noires.
Très bien, alors c'est un pèlerinage hein, qui dure, on le rappelle, 3 jours, hein, mmh, du 6 au voilà, 8 septembre cette année, oui, par exemple. Mmh. Alors pourquoi déjà 6 au 8 septembre ? C'est-à-dire que là, le programme, c'est 3 jours, notamment on a les retraites au flambeau.
Voilà, pardon, il y a des retraites au flambeau, il y a des processions, il y a mmh, la messe bien entendu, et chacun peut aller se recueillir dans cette petite église qui est très belle. Voilà. Elle est simple, ouais, elle est toute simple, mais elle est très belle. Et puis quand même, depuis si longtemps que les pèlerins viennent ici, il y a une espèce d'aura qui mmh, règne. Et je pense que c'est important pour le monde chrétien et le monde catholique en particulier. Pour le, voilà, au moment soit du 15 août, soit du 8 septembre, mmh, de se rappeler que Marie est quand même la patronne de la France.
Voilà, voilà, hein, pourquoi aussi. Voilà, on a également parlé de ce pèlerinage aujourd'hui, 15 août. Bien entendu, et aussi voilà, pour mmh, également permettre de noter sur votre agenda, mmh, 8 septembre, voilà, oui, ce pèlerinage oui, oui, Notre-Dame de Vernet. C'est un mardi hein, cette année, donc n'hésitez pas en tous les cas mmh, à y aller.
Alors,
en tout cas,
sûr,
le succès ne désemplit pas. Hein,
oui, tout à fait. Alors, bien entendu, autrefois, on a retrouvé des vieilles cartes postales mmh, qui représentent la foule, voilà, la foule qui venait se recueillir à Notre-Dame de Vernet. Alors, il faut savoir que les gens montaient de Rouen, bien souvent à pied, hein, ou alors des fois à cheval, etc.
Oui, donc là vous avez une carte postale,
oui,
hein, sous les yeux, Claire.
Sous les yeux, voilà. Et qui représente justement le bac à trail, mmh, puisque le pont de Villeray n'existait pas encore. Donc c'était un bac à trail et il y avait beaucoup de gens. C'était la grosse journée du passeur, puisqu'il y avait un passeur mmh, hein, qui gérait mmh, ce bac à trail. Bac à trail, ça voulait dire un bac qui était retenu par une courroie, mmh, hein. Et on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui sur les côtés ce qu'on appelait les chèvres, c'est-à-dire voilà, c'était ces espèces mmh, de, comment je pourrais expliquer, de gros plots sur lesquels était, on tournait la manivelle, mmh, sur lesquels était relié le bac à trail. Et c'était bien entendu le jour où le passeur n'aurait... Il y a une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, c'est que le jour où ils ont construit le pont, mmh, le pont de Villeray actuel, ils l'ont mis en... Enfin, ils l'ont ouvert avant le 8 septembre. Et le passeur s'est fâché tout rouge. Il a dit non, 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 ne me gâchez pas mon dernier 8 septembre. Et ils ne l'ont pas écouté. Et ils ont ouvert le pont de Villeray. Et ce pauvre passeur, il n'avait que quelques paysans à passer ce jour-là qui avaient quand même tenu à passer encore une fois avec le bac à trail.
Ben, voilà, c'était le 8 septembre, c'était son jour. À lui,
ah
vraiment,
oui, parce qu'il passait des milliers de gens. Voilà, hein. Oui, il passait des milliers de gens. Quoi. Donc, bien sûr, c'était payant.
Ne
forcément.
Pas oublier le rôle du passeur, évidemment,
oui,
très
bien
important.
Sûr. Ah ben, bien sûr, c'était son travail. Vous savez, Victorien, avant le barrage de Villeray, la Loire, c'était forcément, bien sûr, des gorges, comme mmh, tout le monde le sait, ou... Mais vous n'avez pas connu, hein.
Ah non, je n'ai pas connu.
Et non, il y avait
je
donc.
Pas encore conçu.
voilà. Il y avait donc des paysans dans ces gorges de Loire, et ces paysans étaient pêcheurs, et ils étaient bien souvent passeurs.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Ce qui sera d'ailleurs le sujet de mon prochain livre.
Ah d'accord, donc voilà. Ah oui, votre prochain livre d'ailleurs, vous en avez parlé d'ailleurs,
voilà, ce sera le sujet
sur nos ondes, également, voilà, ce nouveau roman.
Voilà, qui sera donc la vie de ces paysans qui étaient pêcheurs et qui étaient bien entendu passeurs sur la Loire, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour aller par exemple de Gevres ou de Chevenet, que vous connaissez bien Victoria.
Ah
oui,
Chevenet, bien sûr.
De Gevres pour
les auditeurs, voilà, pour les auditeurs, en effet, j'habite là-bas.
Voilà, Victoria habite à Chevenet.
Donc si vous voulez me voir pour prendre des autographes et tout ça, allez-y. Alors,
donc les habitants de Chevenet, de Gevres, enfin tous ces habitants de la rive droite de la Loire, eh bien étaient obligés de traverser tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, ou alors il fallait descendre à Perpète, quoi. Et comme les gens étaient à pied, eh bien on passait la Loire et il y avait des gens qui étaient passeurs professionnelle.
Voilà, donc pèlerinage Notre-Dame de Vernet, un petit mot rajouté clair là-dessus, c'est bon, hein, on a
non, je pense qu'on
fait,
en a fait
le tour,
voilà,
là-dessus. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à y aller, bien sûr, le 8 septembre, même ça commence le 6, hein, comme, comme chaque année, pendant 3 jours. Merci Julien, en tous les cas, tout au long de cette demi-heure, même une grosse demi-heure, en tout cas, avec, avec nous. Merci Julien, merci à vous tous, évidemment, les auditeurs, hein, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous. Merci à vous, bien sûr, Claire Vanquine.
Eh ben, merci Victoria, merci Julia.
Et on se retrouvera dans 15 jours pour le dernier numéro estival, hein, le 29 août. Ce sera, sera le dernier numéro estival avant une reprise, évidemment, de la saison 2 d'Historiquement Parlant.
Et une pensée pour Alexis Martinet.
Et bien sûr, Alexis Martinet qui n'est pas malade, hein, qui n'est pas mort, comme vous pensez, Julien. Très une grosse, une petite pensée à Alexis. Non, non, mais si, il est en vacances. Il est en vacances.
Alors, bonnes vacances, bien sûr.
Et le 29 août, il devrait revenir. Les volcans.
Voilà des jeunes garçons, comme on voudrait en voir tellement plus. Et bravo les garçons, en tout cas.
Ça fait plaisir, merci.
Super, merci.
C'est vraiment sincère, hein, je vous
le dis.
Très,
très bien, mais on le sait. Hein, on
oui,
vous
oui,
êtes
oui.
sincère, vous êtes authentique, comme je l'ai dit dans la présentation. Voilà. Merci, très bon week-end à tous, très bon week-end, 15 août surtout, et très belle nuit étoilée aussi.
Très bon week-end à tous.
Allez, salut.
Ciao.
Au revoir.